Théologie naturelle, Père Philippe, 1er décembre 1983 à Saint-Joseph.
Je sais qu'il y a des questions qui se posent, j'y reviendrai un peu au terme, hein, parce que c'est pour que vous ayez l'unité de cette question 3. Il y a une unité très profonde à saisir, qui n'est pas commode, alors c'est bien d'accumuler les questions. Pas exprès, hein, les questions qui arrivent. Et puis, on reprendra dans une petite synthèse pour mieux comprendre cette question 3 qui est importante. Hein. C'est la première question de la théologie scientifique. Et donc, c'est peut-être là aussi qu'on doit saisir ce qu'est la théologie scientifique. D'une façon très particulière. Là, c'est le livre du père Padfort qui vient de paraître sur la théologie scientifique de saint Thomas. C'est intéressant à voir. Alors, je relis l'article 3, c'est-à-dire de montrer comment en Dieu la division nature et suppos n'existe pas. Alors, comprenez bien la manière dont saint Thomas essaie de nous communiquer le fruit de sa contemplation. Les divisions que nous pouvons voir autour de nous, que nous pouvons voir en nous. Parce qu'en définitive, c'est toutes les divisions que nous pouvons constater en nous. Toutes ces divisions demandent d'être dépassées quand il s'agit du mystère de Dieu. Et la grande arête, hein, vous n'avez qu'à le remarquer, la grande arête, c'est toujours Dieu acte pur. Pas de potentialité en Dieu. Parce que la source de toutes les divisions provient d'une potentialité. Alors, les diverses potentialités sont faciles à comprendre. Une fois qu'on a compris un peu ce grand axe de recherche, première potentialité, divisibilité. Deuxième potentialité, radicale. De la matière. La divisibilité, c'est le corps. Potentialité radicale de la matière. Troisième potentialité, ça va être la potentialité qu'on voit ici dans cet article 3, qui est plus délicate, puisque c'est suppos et nature. Alors pourquoi y a-t-il une séparation entre le suppos et la nature? Pourquoi vous n'êtes pas l'humanité? C'est très dommage. Pourquoi n'êtes-vous pas l'humanité? Pourquoi vous ne pouvez pas vous présenter comme Jean-Jacques Rousseau? Regardez-moi et vous comprendrez ce que c'est que l'homme. Hein? Quand Jean-Jacques Rousseau dit ça, il manque de philosophie. Pas seulement, hein? Mais il manque de philosophie. Il manque de philosophie parce que s'il était plus philosophe, il ne dirait pas ça. Il verrait que c'est monstrueux. Tandis que Dieu peut dire, regardez-moi, je suis Dieu. Et la déité. Il ne le dit pas parce qu'il est Dieu. C'est la différence avec Jean-Jacques. On est sur... c'est toute la différence qui existe. Mais c'est intéressant de voir ça parce qu'on peut tout traduire par le point de vue du je personnel. Vous voyez, ce serait intéressant de voir ça. On verra au terme. Je me suis amusé une fois à essayer de diviser ça par le point de vue du moi. Tous les moi qui sont présents dans la personne humaine, vous les trouvez tous ici dans toutes ces divisions. Alors, je reprends le corps de l'article, simplement le lire, puisque nous l'avions déjà vu la dernière fois, et on a soulevé quelques questions, et on a raison de soulever ces questions-là, parce qu'elles sont justes. Pour comprendre cette vérité, il faut savoir que dans les choses composées de matière et de forme, vous voyez que c'est une conclusion donc de l'article précédent, la distinction matière et forme. Nécessairement, il y a une distinction entre la nature ou essence d'une part et le suppos de l'autre. Alors suppositum, hein, et natura essentia d'une part. Alors saint Thomas montre, vous voyez, ça a l'air d'être un article appendice celui-là. Si vous avez la distinction matière et forme, la conséquence c'est que nécessairement essence et suppos sont distincts. C'est comme ça qu'il le présente. Hein. C'est comme une conclusion. C'est très rare qu'il fait ça. C'est très rare, parce que ordinairement, chaque article est organique. Chaque article a son organisation propre. C'est très rare qu'un article, ici article 2, ici article 3, c'est très rare qu'un article suivant est présenté comme dépendant de l'autre. Alors ici, c'est ce qu'il fait. Il ne faut pas l'oublier. Donc il faut savoir que dans les choses composées de matière et de forme, il y a nécessairement necesse est, ad cuius intellectum sciendum, quod in rebus compositis ex materia et forme, necesse est. Donc c'est une conséquence, une nécessité qu'il y ait une différence entre leur nature et leur suppos. En effet, il va expliquer, donc c'est bien comme conséquence. Hein. C'est intéressant à noter parce que c'est là où il faut être très attentif à la manière dont saint Thomas organise sa question. Parce que si vous mettez uniquement 1, 2, 3, 4, 5, vous ne comprenez plus rien du tout. Vous voyez ? Il faut saisir ça. En effet, la nature ou essence ne comprend que ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. Alors, saint Thomas fait appel ici à la définition de l'espèce. Qu'est-ce que c'est que définir ? Ça, c'est un point de vue logique. La définition, c'est de l'ordre logique. La définition, elle définit par différents spécifiques, par genre et différents spécifiques. C'est une chose classique, c'est une chose bien connue pour saint Thomas. Donc, c'est le point de vue de la définition. Qu'est-ce qui est contenu dans la définition ? En effet, la nature ou l'essence ne comprend que ce qui est contenu dans la définition de l'espèce. Ainsi, l'humanité comprend ce qui est inclus dans la définition de l'homme, car c'est par cela même que l'homme est homme. Et c'est cela qui signifie le mot humanité, à savoir ce par quoi l'homme est homme. Donc on formalise, la définition formalise et saisit humanité, le contenu de l'homme est exprimé par humanité. Humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Or, la matière individuelle, jointe à tous ces accidents qui l'individualisent, n'entre pas dans la définition de l'espèce. C'est bien évident. Si je cherche à vous définir comme un individu, vous débordez l'espèce. Il y a en vous des temps et des choses qui ne sont pas du tout spécifiées dans l'espèce humaine. L'espèce humaine animale raisonnable. Ça me dit très long sur vous. Animal raisonnable. Bon, vous êtes très différents, vous êtes tous dans la même définition. Donc la définition ne regarde pas ce qui est individuel. Or, la matière individuelle jointe à tous les accidents qui l'individualisent n'entre pas dans la définition de l'espèce, car on ne peut introduire dans la définition de l'homme cette chair-ci, ces os-ci, cette blancheur, cette noirceur, etc. Donc, cette chair, ces os, les accidents qui caractérisent cette matière ne sont pas compris dans l'humanité. Tout ça est très évident. Cependant, ils appartiennent à celui-ci qui est homme. L'individu comme tel, c'est cette chair particulière. Bien individuel. C'est ça l'individu, cette chair particulière, cette matière particulière. Il s'ensuit que l'être appelé homme a en soi quelque chose que n'a pas l'humanité. L'être appelé homme a en soi quelque chose que n'a pas l'humanité. Parce que l'être appelé homme, c'est cet homme particulier à quelque chose que n'a pas l'humanité. C'est pour cela que ce n'est pas entièrement la même chose que homme et humanité. L'homme pris concrètement implique la matière. Mais ce qu'on signifie par l'humanité joue à l'égard de l'homme individuel le rôle d'une forme dans une matière. La définition se prend toujours du côté de la différence spécifique, donc elle se prend toujours d'une façon formelle. Parce que les principes qui définissent ont ce caractère de forme à l'égard de la matière qui fournit la division. Donc saint Thomas, partant, vous voyez bien la chose, hein, on parle des réalités qui impliquent matière et forme. Et on dit que ces réalités qui impliquent matière et forme, le point de vue du contenu de la définition, il faut bien saisir, le contenu formel de la définition n'est pas adéquat à ce que représente la réalité prise individuellement. La définition et l'individu. Tout individu est ineffable. Il ne faut jamais l'oublier. L'individu est ineffable parce qu'il contient des quantités de choses qui ne sont pas dans la définition. La définition regarde le point de vue de la nature, regarde le point de vue de l'essence. Voilà ce que regarde la définition. Tandis que l'individu implique en plus de la nature et en plus de l'essence tout ce qui est un individu. Tout ce qui est un individu. Tout ce qui est un individu, c'est donc la matière individuelle. Je ne précise pas ici qu'est-ce que c'est que le principe d'individuation. Simplement, je constate. Tout ça, c'est facile à comprendre. Hein, si vous arrivez à saisir les expressions que donne saint Thomas, c'est facile à comprendre. C'est une conclusion immédiate. Mais dans les êtres qui ne sont pas composés de matière et de forme, donc nous sommes partis d'êtres composés de matière et de forme. On dit dans tous les êtres composés de matière et de forme, il y a une différence, une distinction entre la définition et l'individu. Entre ce que signifie l'individu, la définition, c'est-à-dire l'essence et la nature, et puis l'individu. Tout simplement parce que l'essence, comme telle, n'implique pas les notes individuelles. Et que l'individu implique ses notes individuelles. Donc il y a une distinction entre suppôt et nature. Mais dans les êtres qui ne sont pas composés de matière et de forme. Alors saint Thomas, là, vous voyez, en théologien, ne précise pas. S'agit-il des anges? S'agit-il de Dieu? Là, la grosse question. Mais il ne précise pas. Il regarde ça d'assez loin. D'assez loin. Mais dans les êtres qui ne sont pas composés de matière et de forme, en qui l'individuation n'a donc pas pour principe une matière individuelle, à savoir telle matière, mais où les formes se trouvent individualisées par elles-mêmes. Il faut que ce soit les formes elles-mêmes qui se trouvent être les suppôts subsistants. De sorte que, dans ces êtres-là, il n'y a pas de distinction entre suppôts et nature. Dans les êtres qui n'impliquent pas de matière, c'est la forme elle-même qui implique son individualisation. Saint Thomas dira, Gabriel, l'ange Gabriel, et la gabriélité, c'est la même chose. La gabriélité, c'est ce par quoi Gabriel est Gabriel. C'est sûr. Donc c'est la même chose, c'est la même réalité. C'est le même. Il n'y a pas un principe distinct qui fait qu'il y a quelque chose qui s'ajoute. Mais c'est la même réalité qui est individualisée par sa propre forme. Ainsi, sachant qu'en Dieu, il n'y a pas de composition de matière et de forme, on doit conclure nécessairement que Dieu est sa déité, que Dieu est sa vie, en quoi que ce soit qu'on affirme ainsi de lui. Donc, vous voyez comment saint Thomas précise ici. Quand il s'agit d'un individu, il y a la matière individuelle qui s'ajoute. Parce que de fait, dans la définition des sens est impliquée la matière. Mais la matière individuelle est quelque chose qui vient s'ajouter, telle matière. Quand je regarde au contraire une réalité dans laquelle il n'y a pas de distinction de matière et de forme, c'est-à-dire des matières, c'est-à-dire des réalités qui sont des formes séparées. On dirait dans un langage philosophique des substances séparées qui ne sont pas liées à la matière. Eh bien, dans ces réalités, pas de distinction entre l'individu et le suppôt, entre le suppôt et la nature. Et saint Thomas englobe les anges. Mais voyez, c'est très important de comprendre que l'article 3 est une conséquence de l'article 2. Ça, je crois que c'est très important. En réalité, c'est un petit article comme un appendice qui vient s'ajouter, tout simplement, une conclusion. C'est pour ça que je n'ajoute pas plus. Tandis qu'au contraire, l'article 4 est vraiment quelque chose de très nouveau. Ça, on peut le mettre comme ça. Ici, je laisse en secondaire. Vous voyez, c'est la potentialité radicale de la matière qui est vue
dans l'article 2 et dans l'article 3. Tandis qu'ici, ça va être une autre potentialité. Ce n'est pas la même potentialité. Non. La potentialité de la divisibilité, c'est la potentialité de la quantité. C'est-à-dire du corps. La potentialité radicale de la matière, qui est vue à deux échelons différents. C'est à cause de la potentialité radicale de la matière que l'individu comme tel n'est pas identique à la nature. C'est une conséquence. Tandis qu'ici, ça va être la potentialité radicale de l'essence. Distincte de l'essence. C'est tout à fait un autre point de vue. Ici, on reste dans le domaine de la philosophie de la nature. Ici, philosophie première. Puisque c'est par rapport à l'être. C'est plus par rapport à la forme. On passe à un autre registre. Mais c'est là, c'est très difficile. C'est là où on voit comment le théologien dépasse toutes les distinctions philosophiques des différentes parties de la philosophie. Alors, il jongle là-dedans. Et croit que nous sommes au même niveau d'intelligence que lui. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Et c'est pour ça que c'est si difficile, la somme théologique de saint Thomas. Et c'est pour ça qu'elle ne forme pas au plan philosophique. Parce qu'on passe, enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire ici, en philosophie. Vous distinguez philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie première. Et puis vous distinguez encore le point de vue de la logique. Vous distinguez ces parties de la philosophie. Et vous savez que les distinctions de la philosophie de la nature et les distinctions de la philosophie du vivant ne sont pas les mêmes. La philosophie de la nature se divise en phusis, donc nature, forme, nature, matière. Et puis ici, vous distinguez entre âme, puis corps. Et en philosophie première, vous distinguez substance et accident. L'être, puisque c'est au niveau de l'être, philosophie première, c'est au niveau de l'être. Tandis qu'ici, vous êtes au niveau du devenir. Le devenir se divise en forme et matière, en âme et corps. Alors que l'être ne peut pas se diviser en matière et forme. L'être se divise en substance et accident. Il se divise en acte et puissance. Voilà les grandes divisions qui ne sont pas les mêmes. Le philosophe, le théologien, ça c'est le point de vue du théologien. Le théologien, lui, il se place dans la lumière de la foi. Dans la lumière de la foi, il adhère à Dieu. Dieu est l'être premier acte pur. Dieu est au-delà de toute division. Pourquoi ? Parce que toutes les divisions impliquent une potentialité. Alors, on va regarder où se trouvent les divisions. Première division pour saint Thomas, la division du corps. Du corps et de l'âme. C'est curieux. C'est au seul point de vue du corps et de l'âme, donc c'est le point de vue de l'âme qu'il prend. Il commence par l'âme. Seconde division, matière et forme. Elle se recoupe ces deux divisions. Article suivant. L'article près, ah, c'est le point de vue de l'individuation. Le point de vue de l'individuation, c'est un problème particulier. C'est le point de vue du suppôt et de la substance, un problème particulier. Alors on est en annexe avec l'article 2. L'article 3, ah, c'est une division qui va être propre à la métaphysique, l'essence et l'essai. C'est une division qui va recouper d'une certaine manière la division substance-accident, acte et puissance. On va le voir.
Mais ce que je veux vous faire comprendre, hein, et ça je voudrais que vous le compreniez bien, parce que c'est quand même toute la différence qui existe entre un raisonnement philosophique et un raisonnement théologique. Dans un raisonnement philosophique, on est toujours tout proche de l'expérience. Et on doit distinguer le point de vue sous lequel on se trouve. Est-ce qu'on se trouve au niveau de la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant, de la philosophie de l'être? Quand je me place au point de vue théologique, je me place sous le point de vue de la foi. Je regarde tout dans la lumière de Dieu. Alors je peux me servir aussi bien de la philosophie du vivant, de la philosophie de la nature, de la philosophie première, ça importe peu. Et je ne le signale même pas. Le théologien peut se servir de toutes les parties de la philosophie, même la logique, sans crier gare. Parce qu'il est à un niveau supérieur, tout simplement. Quand on est à un niveau supérieur, on peut se servir de tout ce qui est inférieur. Hein, vous n'avez qu'à être là, un peu au-dessus, tout en haut du clocher, alors vous vous servez du troisième étage, du troisième, pas d'importance du tout. Tandis que quand vous montez, premier étage, deuxième étage, troisième étage, vous êtes obligé de signaler. Ça, c'est la philosophie. Et vous signalez premier étage, deuxième étage, ainsi de suite. Et la logique, l'escalier de service. Parce que c'est l'escalier de service, tourne en rond, c'est ça. Vous en servez comme vous. Mais vous êtes obligé de préciser où est-ce que vous en êtes. Tandis qu'au contraire, lorsque vous êtes en théologie, vous êtes dans la lumière de la foi. Vous dépassez. C'est pour ça que ça peut faire une bouillabaisse. Hein, vous comprenez bien. Si on n'est pas très philosophe, mais quelle bouillabaisse, aucune espèce importante, je me sers de toutes les divisions. Pour saint Thomas, toutes ces divisions sont fondées en philosophie. Mais on se sert de la philosophie. Le théologien se sert de la philosophie. Il ne fait pas de la philosophie. La foi a le droit de se servir de toutes les parties de la philosophie. La foi peut faire ça, parce qu'elle a une lumière divine. C'est pour ça que c'est impossible de retrouver une philosophie à l'intérieur d'une pensée théologique. Il faut tout reprendre à la base. Et là, vous le voyez très bien. Vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement en faisant cette petite distinction. Vous connaissez bien, philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie première. Très bien. Puis logique. Vous savez très bien, les divisions de la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant, de la philosophie première ne sont pas les mêmes. Et la logique non plus. On verra les divisions de la logique. Elles ne sont pas les mêmes. Regardez comment saint Thomas fait. Divisible du corps, puis la matière. Très drôle. Il prend ce qui est le plus proche, selon l'Écriture. Dans l'Écriture, hein, on voit bien, on dit que Dieu est présent. C'est la question du corps. Et on parle de la main de Dieu, on parle du bras de Dieu. Alors, est-ce qu'en Dieu, il y a une multiplicité de parties, comme si Dieu avait un corps? Non, on peut pas. Aucune divisibilité en Dieu. Donc, c'est bien la divisibilité du corps. Alors, allons plus loin, le point de vue de la matière, pas de matière en Dieu. Allons plus loin, s'il n'y a pas de matière en Dieu, il n'y a pas de distinction entre l'individu et l'essence. C'est quand même très important. On ne se pose pas la question de savoir de l'ange. Mais tout de suite. Et puis, troisième question, celle-ci, l'article 4, que nous allons voir maintenant. La division entre l'essence et l'existence, qui est une fameuse distinction, celle-là. Vous savez bien. Il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. La fameuse distinction entre l'essence et l'existence. Vous savez bien, on dira une des grandes thèses thomistes, c'est qu'en toute créature, il y a une distinction entre essence et existence. En toute créature. Donc c'est un jugement de sagesse. Il faut avoir découvert l'existence de Dieu pour dire qu'en toute créature, il y a une distinction d'essence et existence. Il ne faut pas servir la distinction d'essence et existence pour prouver l'existence de Dieu. Comme, hélas, certains le font. Je ne les nomme pas. Certains font ça.
Dans toute créature, il y a une distinction des sens. Donc il faut nécessairement un être dans lequel il n'y a pas de distinction des sens et des sens. Mais vous ne parlez de la distinction des sens et des sens qu'à partir de Dieu. En fait, une pétition de principe. Vous comprenez ? C'est astucieux, ça. Ça ne prouve rien du tout. Vous avez déjà vu votre distinction entre essence et existence ? Quand vous dormez, hein, vous mettez votre essence à vos pieds et puis votre existence sur votre oreiller. C'est ce que vous faites, distinction essence et existence. La distinction d'essence et existence, vous ne la palpez pas, vous ne la touchez pas, vous la concluez dans la lumière de la simplicité absolue de Dieu. C'est dans la lumière de la simplicité absolue de Dieu que vous dites qu'en toute créature, en dehors de Dieu, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Vous ne pouvez pas dire ça autrement. Parce que, de fait, la distinction d'essence et existence, vous ne la constatez pas. Vous constatez simplement en vous la distinction. Vous pouvez, vous voyez, la distinction entre matière et forme, vous la découvrez par un mode d'induction. La distinction d'essence et d'existence, vous la concluez par un mode de jugement de sagesse. C'est pas la même chose. Alors, voici ce que dit saint Thomas. Première objection, hein. Une telle affirmation semblerait entraîner une grave erreur. Car si l'essence de Dieu est identique à son être, alors l'être, c'est toujours l'essai. C'est pour ça que c'est très difficile quand on traduit en français. L'essai, ça devrait toujours se traduire acte d'être. Et ne pas être tout court. Je comprends très bien comment on peut traduire essai, l'être. Parce que essai, c'est l'infinitif de ens. Alors vous passez de la forme du participe à l'infinitif, et vous dites l'être. Comme vous pouvez traduire ens étant. Mais il ne faut jamais faire ça aujourd'hui. Il ne faut jamais traduire ens étant depuis Heidegger. Parce que depuis Heidegger, étant a une signification qui n'est pas du tout la signification de ens. Donc il faut faire grande attention, tout simplement. Si vous prenez le latin, il n'y a pas de danger dès que vous traduisez, il faut savoir ce que vous voulez dire. Alors, l'objection est celle-ci. Une telle affirmation, en Dieu, pas de distinction entre essence et acte d'être, entre essence, entre essentia et essai. Car si l'essence de Dieu est identique à son essai, il s'ensuit qu'à l'essai même en lui, rien ne s'ajoute à titre d'élément déterminateur. Or, l'être ainsi dégagé de toute détermination, c'est l'être en général qu'on attribue à tout ce qui existe. Donc c'est l'essai en général. Dieu ne serait donc que l'être en général commun à tous les êtres. Et c'est à quoi s'opposent ces paroles de la sagesse. Ils ont donné à la pierre et au bois le nom incommunicable. C'est assez complexe, hein. Je ne crois pas que vous avez compris. Mais c'est intéressant, c'est une petite objection. Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que si l'objection est inintelligible, hein, ça avance. Alors, il faut voir tout de suite le corps de l'article, puis on viendra sur l'objection après. Que l'objection est assez coriace. Elle n'est pas commode du tout à bien comprendre. Saint Hilaire écrit. Vous voyez que saint Thomas ici fait appel à saint Hilaire dans son De Trinitate. L'essai, l'être, n'est pas en Dieu attribut surajouté, mais vérité subsistante. Donc, l'essai n'est pas un accident en Dieu, mais il est la vérité subsistante. Vous ne pouvez pas dire ça pour vous. Vous ne pouvez pas dire que votre existence est votre vérité subsistante. Sauf Jean-Jacques, toujours. Il a un privilège particulier, vous voyez. Autrement, vous ne pouvez pas le dire. Mais la vérité subsistante. Donc, Dieu subsiste dans son propre essai.
Dieu subsiste dans son essai, c'est-à-dire dans son être. C'est la chose importante hein, pour saint Thomas. Dieu subsiste dans son essai. Vous ne pouvez pas dire que vous subsistez dans votre essai. Vous pouvez dire que votre essai, c'est l'essai de la nature humaine. C'est la petite phrase d'Aristote qui est si difficile à traduire. To anthropo einai. L'être à l'homme. L'être à l'homme. Vous voyez, ça dit mieux la chose. Votre exister, c'est l'exister d'un homme. L'exister tout court. Vous n'êtes pas l'exister tout court. Tandis que Dieu, il est l'exister tout court. C'est ça que ça veut dire. Hein? Tout simplement. Vous n'êtes pas l'exister tout court. Vous êtes l'exister à l'homme. Vous êtes l'exister de l'homme. Mais j'aime mieux ton anthropo einai. C'est-à-dire l'être einai, l'essai, l'être à l'homme. Votre exister est lié à votre nature humaine. Vous n'êtes pas l'exister d'un ange. Vous pouvez rêver aux anges, mais vous n'êtes pas l'exister d'un ange. Vous pouvez dire c'est bien malheureux. J'aurais été un ange si merveilleux. Et je suis un homme si minable. J'aurais pu être une exister, l'être si beau à l'ange. J'aurais pu être quelque chose de merveilleux. Non. Vous êtes l'être à l'homme. Vous n'êtes pas l'être du lion. Vous n'êtes pas l'être du crocodile. L'exister au crocodile. L'exister à la craie. L'exister de chaque chose. Il est lié à telle détermination. L'exister est lié à telle détermination. Il n'y a qu'en Dieu où l'exister subsiste. C'est-à-dire que l'exister en Dieu, c'est l'exister de l'état pur. C'est pas l'exister à Dieu, vous voyez. C'est très curieux. Vous pouvez dire l'exister à l'homme, vous ne pouvez pas dire l'exister à Dieu. Pourquoi? Parce que si vous disiez l'exister à Dieu, c'est comme si Dieu était un étant parmi les autres. Or Dieu est celui qui est au-dessus de tous les autres, qui transcende tous les autres. Et donc l'exister n'implique aucune limite. Et c'est pour ça qu'il est l'être qui subsiste en lui-même. Alors maintenant, on va voir le corps de l'article. Une fois que vous avez compris, vous pouvez commencer à comprendre saint Thomas. Il faut toujours comprendre saint Thomas avant de le lire, vous savez bien. Autrement, si vous ne comprenez pas saint Thomas avant de le lire, vous n'y comprenez rien. Alors, si vous l'avez compris avant de le lire, vous comprenez. C'est sûr, parce que vous avez ça. Vous savez que, voilà ce que saint Thomas va montrer, que à l'homme, à moi, mon exister est illimité. Donc il y a une distinction entre mon essence, ma nature, et mon exister. Puisque je suis l'exister à l'homme. Donc il y a l'homme et il y a l'exister. Il y a deux. L'exister au lion, c'est l'exister et le lion. Pour Dieu, l'exister est à l'état pur. Ça, c'est quelque chose. Hein. Une fois qu'on a. Quand on essaie de penser ça, ça vous donne le vertige au point de vue proprement métaphysique. Dieu est l'exister à l'état pur, sans aucune limite, parfaitement déterminé, mais sans aucune limite. En effet, il ne suffit pas de dire que Dieu est identique à son essence, comme nous l'avons montré. Il faut ajouter qu'il est identique à son essai. Ce qui peut se prouver de maintes manières. Donc ce qui peut se montrer. Ostendi potes. Vous voyez, j'aime pas beaucoup dire démontrer. C'est plutôt ce qui peut se montrer. Ostendi potes. Multiplicitaire. Donc de multiples façons. Tout d'abord, ce qui se constate dans un être en dehors de son essence. D'abord, primo, quid est in aliquo quod est preter essentia eius, donc tout ce qui se constate dans un être en dehors de son essence, de sa nature,
a besoin qu'on lui assigne une cause, soit intrinsèque, soit étrangère, extrinsèque. Il peut résulter des principes même de l'essence, comme les principes, comme les propres attributs de l'espèce. Ainsi, le rire appartient à l'homme en raison des principes essentiels de son espèce. Ou bien, il vient de l'extérieur, comme la chaleur de l'eau est causée par le feu. La chaleur, ce n'est pas l'eau. C'est distinct de l'eau. Donc, c'est quelque chose d'ajouté. Et donc, il y a une cause extrinsèque. Le rire, c'est pas l'homme, parce que l'homme ne rit pas toujours. Donc le rire, c'est pas l'homme, c'est quelque chose qui s'ajoute à l'homme, mais c'est quelque chose qui provient de l'homme, tandis que la chaleur ne provient pas de l'eau. Alors voyez les deux aspects, quelque chose qui vient s'ajouter, quelque chose qui vient s'ajouter, ou le rire ou la chaleur. Deux exemples que prend saint Thomas. La chaleur ne définit pas l'eau, le rire ne définit pas l'homme. Alors, vous prenez deux choses qui sont extrinsèques à la réalité et vous dites que tout ce qui vient s'ajouter à la réalité ou provient de principes immanents à cette réalité ou provient de causes extrinsèques. Si donc l'essai même d'une chose diffère de son essence, l'essai de cette chose est causé nécessairement soit par un agent extérieur, soit par les principes essentiels de cette chose. Mais il est impossible, lorsqu'il s'agit de l'être, de l'essai, qu'on le dise causé par les seuls principes essentiels de la chose, car rien ne suffit à se donner l'essai. Dès lors qu'il doit le recevoir, et dès lors qu'il doit le recevoir. Il reste donc que ce qui fait voir distinct. Il reste donc que ce qui fait voir distinct son essai et son essence reçoivent son essai d'un autre. Or, cela ne peut se dire de Dieu que nous déclarons cause efficiente première. Il est donc impossible qu'en lui-même autre soit l'essai, autre l'essence. Autrement dit, saint Thomas va nous montrer qu'il est impossible, étant donné ce qu'est Dieu, qu'il puisse y avoir une distinction entre son essence et son essai. Impossible. Métaphysiquement impossible de penser que dans l'être premier, il puisse y avoir une distinction entre sa nature, son essence et son exister. Impossible. Pourquoi ? Parce que si l'essai est distinct, vous voyez, raisonnement par un mode d'impossibilité. Hein. C'est un raisonnement par mode d'impossibilité. Alors, un raisonnement par mode d'impossibilité ne vous donne aucune intelligence. Mais rejette la thèse, simplement. Ça rejette la thèse. Vous ne pouvez pas dire qu'en Dieu, il y a une distinction entre essence et existence. C'est absolument impossible. Ce serait contradictoire dans les termes. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'être premier. Tout simplement. Parce que Dieu est l'être premier. Donc, il ne peut pas dépendre d'un autre. L'essai ne peut pas provenir d'un autre. Et l'essai ne peut pas provenir de lui. Parce que si l'essai provenait de lui, ça prouverait que, de fait, il est en puissance vis-à-vis de cet essai. Et donc, il ne serait pas l'être premier. Donc, l'être premier comme être premier, parce qu'il est acte pur, ne peut pas y avoir en lui de distinction entre essence et existence. Vous voyez ? Encore une fois, comprenez bien, c'est un raisonnement par mode d'impossible, par mode d'impossibilité. Donc un raisonnement par mode d'impossibilité ne vous apporte aucune intelligence positive, mais vous montre que c'est une voie sans issue. Une voie sans issue. C'est pas la peine de la prendre. Ça vous aboutira à rien du tout. Vous ne pouvez pas penser en Dieu la distinction d'essence et d'exister. Impossible. Alors, ensuite, alors là, on va essayer d'avoir une petite intelligence positive. L'essai c'est l'actualité de toute forme. Alors ça, ce sont des expressions qui sont bien connues et que nous devons essayer de bien comprendre. L'essai est actualitas omnis formae. Ça, il faut connaître ça. Il faut l'apprendre par cœur, hein, ce qu'il dit, apprendre par cœur quelque chose. Est actualitas formae. Une formule extraordinaire de saint Thomas. L'essai, c'est l'actualité de toute forme. Il dit l'actualité. Il ne dit pas l'acte, il dit l'actualité. Or, l'actualité, l'acte, c'est quoi? L'actualité, c'est la forme abstraite de l'acte. C'est donc ce par quoi l'acte est acte. Hein? C'est ça, l'actualité. Et donc, c'est ce par quoi l'acte est acte. C'est donc l'essai, c'est donc le principe formel d'actualité de toute forme. Pensez ça. Toute forme est actualisée par l'essai. Toute forme est actualisée par l'essai. Alors, essai traduisait exister. Je crois qu'on peut dire. Je sais bien que les puristes n'aiment pas ça. Fabreau n'aime pas ça. Il dit, il ne faut pas traduire essai par exister. Mais je crois qu'on peut le faire. Il ne faut pas vouloir aller trop loin, on peut dire que l'essai, c'est exister. J'existe. Je suis. J'ai mon essai. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essai? Par où j'existe? Eh bien, c'est l'actualité suprême de ma forme. Ma forme, c'est quoi? C'est ma nature. C'est ma nature. C'est mon actualité. L'essai, c'est l'actualité suprême de ma forme. Une forme... Peut-être une forme qui peut exister et une forme qui existe. La nature humaine peut exister ou elle existe. Elle est dans les deux états différents. Donc quand je la prends en tant qu'elle existe, elle est en acte. Je la prends en tant qu'elle peut exister, elle n'est pas en acte. Elle est une forme possible. Alors, voyez la définition que prend saint Thomas. C'est très beau, ça. Hein? Il faut essayer de comprendre. L'essai est l'actualitas omnis formae. Omnis, j'ai oublié. Omnis, parce que ça fait mieux. Ça reste vrai. L'actualité de la forme, donc, elle est à l'actualité de la forme parce qu'elle est à l'actualité de toute forme. Donc, elle est l'actualité de toute forme. Ou de toute nature. Forme qui est prise ici comme nature. Et c'est l'actualité de toute nature. Donc, l'essai est l'actualité de toute forme, de toute nature. Car la bonté ou l'humanité, par exemple, n'est signifiée comme actuelle qu'autant que nous la signifions existante. Car la bonté et l'humanité ne sont, par exemple, n'est signifié comme actuel que si nous, nous disions qu'elle existe. Bonitas vel humanitas significatur inactu. Vous voyez, alors c'est pour ça que quand on traduit actuel, ça ne va pas très bien. Il faut, on sent tout de suite. La bonté et l'humanité n'est signifié en acte que lorsque en elle nous signifions l'essai. C'est très dense, hein, ces choses-là. C'est toute la métaphysique de l'essai qui est impliquée dedans. Et c'est très beau, il faut réfléchir. C'est un très bel article, ça. Mais c'est l'article culminant. Les deux autres, très bien, vite fait, ça. Celui-là, on arrivera à dire. Au terme, Dieu est l'ipsum esse subsistans. Et pour le père Garrigou Lagrange, l'ipsum esse subsistans était ce que saint Thomas avait dit de plus extraordinaire sur le mystère de Dieu. L'ipsum esse subsistans. Je ne suis pas. pas d'accord, mais ça fait rien. Le père Garrigou l'a dit, c'est quand même bien. L'ipsum esse sous un, c'est l'essai qui subsiste. C'est l'ipsum esse sous un. Il subsiste dans son essai. Dieu n'a pas une nature distincte de son acte d'être. Il est l'acte d'être lui-même. Et ça correspond à ce qu'Aristote avait dit, l'acte pur. Il y a une correspondance entre eux. Mais évidemment, la formule de saint Thomas, l'ipsum esse subsistens, est plus belle que la.